Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire. Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30, et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio Free Gaza. Bonjour Christophe ici au studio.
Bonjour Hans.
Voilà, donc aujourd'hui nous avons Christophe Wasinski avec nous qui va nous parler de tout ce qui est licence d'exportation d'armes et autres choses en Belgique. Mais d'abord, on va essayer d'appeler Lucie, qui se trouve sur un bateau. Voilà, on va essayer ça directement. Bonjour Lucie, comment vas-tu?
Oui, Merak, hallo.
Hallo. Lucie, tu te trouves sur un bateau en Méditerranée. Comment ça se passe?
C'est très intense, mais c'est aussi spécial. On est jour 3 maintenant et il y a beaucoup de maux de mer et aussi des anxiétés, ce qui est normal avec les problèmes techniques. En fait, maintenant, notre bateau, je ne sais pas très bien comment on dit en français, mais est tiré par un autre bateau.
Oui.
Parce que, ouais, parce que le moteur et la batterie étaient cassés.
Oui.
Mais c'est aussi très beau. C'est vraiment beau de voir tous les bateaux ensemble, tous les gens des pays, ouais, trop de pays différents et tous avec la même intention. Ça donne de l'espoir. On est en train de porter quelque chose ensemble et c'est très fort en fait.
Oui. Et vous êtes combien sur votre bateau?
Sur mon bateau maintenant, moi je suis le médecin de 4 bateaux. Donc je change un peu des différents bateaux. Et ici, on est 9 personnes.
Ok. Et donc, les gens, il y a beaucoup de gens qui ont des maux de mer, c'est ça? Et c'est pour ça qu'on vous appelle?
Il y a des... Oui, ça c'est le problème le plus grand pour le moment, ce qui est normal dans les premiers jours et ce qui va passer, espérons, après jour 4 ou jour 5. Bon, il y a aussi un peu... Ouais, on est tous ensemble sur des espaces petits. Et aussi, on est en route pour faire quelque chose spécial. Donc, ça fait que les gens, ils ont un peu plus vite des anxiétés. Et alors là, je viens aussi.
Ok. Mais pour le reste, le moral est bon, les gens s'entendent bien?
Pour le reste, le moral est super bien. On a aussi beaucoup de support de partout. On a maintenant, nous, avec le bateau cassé, on était en route au bateau de Greenpeace. Et médicalement, moi, j'ai beaucoup de support de les gens de Open Arms. C'est un autre bateau.
Oui.
Et en fait, les maux de mer, on savait ça, que ça allait passer. Donc, tous les autres espoirs, ils sont encore là. Donc, tout le monde est très overtaxed et très...
Convaincu.
Ouais, convaincu, voilà, de cette mission. Donc, le moral est là.
Magnifique. Et est-ce que tu as un message pour nos auditrices et auditeurs ici en Belgique?
Pardon, je n'ai pas compris.
Est-ce que tu veux dire quelque chose aux Belges qui nous écoutent?
Ah oui, bien sûr. Je pense que le plus important, c'est de dire que, bon, ce n'est pas loin, Gaza. Tout ce qui arrive ici, ça nous touche aussi. Et si des gens veulent donner du support, ça peut par le faire visible, par parler sur ceci, par rester, par nous suivre et aussi de voir qu'on est tous, en fait, qu'on est tous connectés parce que cette mission, ça, ce n'est pas seulement Gaza, c'est comment la société voit la justice et la humanité. Je pense que c'est très important que on supporte ceci. C'est une manière de garder aussi notre propre humanité. Et ils peuvent le faire par nous suivre, par nous supporter et voir la solidarité, parce que c'est pas seulement une idée, c'est quelque chose qu'on sent et qu'on travaille tous les jours ici.
Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu veux nous raconter? Une autre fois.
Il y a encore des choses. Je suis pas trop préparée avec les problèmes techniques, mais une autre fois.
Ok, une autre fois. Parce que le voyage est encore long. Hein.
Le voyage est encore long.
Oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. On vous souhaite un bon voyage.
Merci.
Et à très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Il y a ce dit d'être ici, hein.
Nous revoilà. Donc, Christophe Asinski, est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots?
Oui, alors je suis professeur à l'Université libre de Bruxelles et je mène des recherches notamment sur les questions de sécurité, sur les questions d'armement, de désarmement et sur le commerce des armements.
Ok. Les derniers jours, on a vu que Théo Franken était un peu coincé après un reportage qui est passé à la télévision flamande, notamment sur tout l'argent qui a été dépensé sur les technologies anti-drones et ça. Et c'est un peu, c'est un peu ce qui se passe maintenant en Belgique, c'est qu'on a décidé qu'on doit se préparer à une guerre et donc on doit dépenser plein d'argent et il y a plein de contrats militaires en fait pour l'instant.
Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est quelque chose qui n'est pas si nouveau que ça. C'est quelque chose qui est déjà en cours depuis une petite dizaine d'années, je dirais. Donc, je pense qu'il faut revenir notamment à la période 2014-2018, lorsqu'il y avait à la tête du ministère de la Défense un ministre qui s'appelait Steven Van de Put, qui était un membre de la NVA. Et à l'époque, le Premier ministre, c'était Charles Michel. Et Steven Van de Put, pendant cette période, pendant cette législature, il avait signé des contrats à hauteur de approximativement 10 milliards d'euros pour acheter du matériel militaire. Donc à cette époque, il n'y avait pas eu d'augmentation du pourcentage du PIB consacré à la défense, mais il y avait eu signature donc, pour l'achat notamment des fameux avions F-35, hein, extrêmement coûteux, mais aussi pour des navires, pour des véhicules blindés et toute une série de choses. Et donc là, déjà, il y a eu quelque chose qui s'est amorcé parce qu'auparavant, les dépenses militaires et les achats étaient quand même assez limités. Puis ensuite, il y a eu une seconde période. Le Premier ministre, c'était Alexander De Croo. La ministre de la Défense, c'était une personne qui s'appelait Ludivine de Donder, qui était membre du Parti Socialiste, qui est toujours membre du Parti Socialiste. Et elle a également signé des contrats à hauteur de 10 milliards milliards d'euros pour des équipements militaires. Alors moins de matériel que son prédécesseur, des contrats pour des installations, pour essayer de recruter davantage de militaires aussi. Mais donc on voit que sur deux législatures, donc, il y a eu donc des contrats importants qui ont été signés. Et puis enfin arrive le gouvernement de Weaver, et donc là maintenant il est question non seulement d'acheter beaucoup de matériel, mais d'augmenter le pourcentage du PIB qui est consacré à la défense. Dans le passé, à la fin de la guerre froide, on était arrivé à 0,9% approximativement. Et là, on est à 2%, on va vers 2,5%. Et il est même question, du fait des demandes de l'OTAN, de monter ce pourcentage à 5%, ce qui est énorme.
Oui, tout à fait. Mardi passé, on a parlé avec Hans Lammer, en théorie des axes, qui nous a raconté d'un décret, un nouveau décret flamand, parce que licence pour l'exportation des armes est une oui. matière régionale. Donc, du côté flamand, on est en train de faire passer un décret qui va beaucoup assouplir les contrôles et qui va beaucoup plus faciliter l'exportation et le transit d'armes en Belgique et donc aussi vers Israël. Quelle est la dynamique du côté wallon? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de similaire?
Alors peut-être pas, donc là je ne suis pas tout à fait au fait des derniers détails de ce qui s'est passé en Flandre, mais il y a des évolutions qui vont dans le même sens, en tout cas en région wallonne. Donc vous avez raison d'abord de rappeler qu'en Belgique, donc, l'octroi des licences d'exportation, donc le document qui permet à un fabricant d'armes de se faire sortir des armes de la Belgique pour les livrer à des États qui peuvent être les États-Unis, un pays européen ou un pays africain du Proche et Moyen-Orient, etc. Donc cette matière-là est régionalisée depuis une vingtaine d'années. Et il y a des documents, donc qui une législation régionalisée qui sous-tend donc, l'octroi des licences en question. Alors, pour le moment, au sein de la région wallonne, donc on a une coalition qui est composée de deux partis, les engagés et le MR. Et les membres du MR ont en essai depuis un certain temps qu'ils voulaient effectivement revoir la législation en question. Et déjà pendant la période électorale, Georges-Louis Boucher, qui est donc à la tête du MR, donc avait fait des annonces dans ce sens. Et depuis un certain nombre de mois, le ministre-président, donc le personnage le plus important au niveau de l'exécutif de la région wallonne, le ministre-président Adrien Delimont, qui fait aussi partie du MR, donc annonce qu'il y a une révision qui est en cours. Et on ne sait pas précisément quel est le contenu de cette révision, c'est en cours de discussion. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est que dans les déclarations de Georges-Louis Boucher et d'Adrien Delimont, il est clairement question de faciliter les exportations d'armes. Alors il y a une référence au jargon, genre c'est quelque chose de stratégique, c'est quelque chose d'important dans le paysage économique de la région wallonne, etc. etc. Alors on ne sait pas de nouveau précisément ce qu'il concocte, mais ça va dans le sens en tout cas, selon eux, d'une facilitation pour les exportations d'armes. Alors si vous me permettez d'ajouter peut-être une chose en plus, c'est que moi je m'interroge sur le bien fondé de cette politique, de cette volonté d'assouplir les choses, parce que quand vous regardez les rapports sur les exportations d'armes du ministre-président de la région wallonne, c'est-à-dire que chaque année, il y a un rapport qui est publié avec un certain délai. Hein. Il n'est pas publié juste au premier jour de l'année, donc il met des mois à être publié. Mais quand on regarde les rapports, par exemple 2021, 22, 23, 24, ce qu'on constate, c'est que approximativement, chacune de ces années, la région wallonne octroie 1300, ça peut être 1350, 1400, enfin, donc c'est un ordre de grandeur, mais c'est assez stable, 1300 exportations d'armes pour une soixantaine d'États à travers le monde. Donc de nouveau, hein, c'est aussi bien les États-Unis que des États de l'Union européenne, que des États du Proche et Moyen-Orient, asiatiques, etc., etc. Et le document en question donc, montre que sur tout l'ensemble de ces demandes, il y a quand même quelques refus. Mais le taux de refus, il est anecdotique. En 2024, il y a eu zéro refus. En 2023, d'après le rapport, si j'ai bien noté, donc zéro refus également. En 2022-2021, il y a deux ou trois refus au total. Il y a des refus notamment qui sont notifiés pour la Turquie et pour Israël, parce que ça va être l'objet de vos questions par après. Donc je fais déjà voilà, une amorce si vous voulez. Donc il y a eu des refus en tout cas pour Israël, des refus pour ce qu'on appelle des licences définitives. On envoie du matériel et il est censé rester dans l'état où on l'envoie. Mais aussi, il y a eu quelques refus pour des transits, parce que là aussi c'est une question importante dans le cadre des dossiers israéliens. Donc autrement dit, quand on constate le taux de refus, refus de la région wallonne, qui est très en deçà du taux de refus global des États de l'Union européenne, qui est déjà lui aussi très très faible, 0,3, 0,4, 0,35%. Mais donc en fait, le taux de refus de la région wallonne est encore beaucoup plus bas que ça. Donc quand on voit ça, on ne comprend pas très très bien pourquoi est-ce qu'il y a besoin de revoir le décret, parce que ça donne le sentiment à travers ces chiffres-là que les exportateurs d'armes, que les entreprises ont déjà plus ou moins ce qu'elles veulent. Lorsqu'elles ont dit, certaines entreprises, les porte-paroles ont dit qu'éventuellement, ce qu'ils espèrent, c'est que l'octroi aille plus vite. Mais là, vous dites que si l'octroi doit aller plus vite, peut-être qu'il faut engager plus de gens pour les traiter. Donc, c'est un autre type de problème. Donc, ça m'interroge, en tout cas, oui, cette révision.
Oui, et est-ce que vous savez pour quelles raisons il y avait des licences pour l'Israël qui ont été refusées ?
Alors, les rapports donnent des éléments et les déclarations des responsables politiques également donnent des éléments intéressants et importants. De manière générale, l'attitude de la Belgique et des entités belges donc, est restrictive par rapport à un État comme l'Allemagne qui exporte beaucoup en Israël et encore maintenant. Donc l'attitude de la Belgique est à mettre du côté des États qui sont restrictifs. En fait, en 2008-2009, il y a eu une grande offensive très brutale de l'armée israélienne à Gaza. C'était une opération qui portait le nom de plomb durci. Il y a beaucoup de civils qui ont été tués lors de cette opération. Et suite à ça, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui était un membre de l'Open VLD, Karel de Gucht, a organisé une concertation. Parce que, donc on l'a dit, l'octroi des licences d'exportation d'armes est régionalisé, mais il y a un dispositif qui permet quand même, pour éviter que ça parte dans tous les sens, qui permet d'organiser des concertations entre la région flamande, la région wallonne, la région de Bruxelles-Capitale également, et le fédéral, hein, pour éviter qu'on fasse totalement n'importe quoi, même si la fréquence de ces rencontres, je peux pas me prononcer précisément. Mais donc il y a eu une rencontre et le ministre des Affaires étrangères donc, a fait pression pour que les différentes régions adoptent des politiques restrictives. Donc ça date de 2009. Et il a été décidé que la Belgique et les entités fédérées n'octroieraient pas des licences pour des équipements pour les forces en présence, c'est-à-dire c'est les forces israéliennes, mais ça peut être aussi potentiellement d'autres forces, mais c'est surtout les forces israéliennes qui étaient visées, n'octroieraient pas des licences qui permettraient donc aux forces en présence de se renforcer. Alors, c'est ouvert de telle manière à ce que ça puisse concerner à la fois les forces armées, mais d'autres forces de sécurité ou d'insécurité, si vous voulez, hein, les forces de police ou d'autres catégories, genre services de renseignement, etc. Il y a eu une seconde concertation en 2016 qui a confirmé le résultat de la première concertation de 2009. Et il y a eu encore d'autres rencontres en ces dernières années. Je n'ai plus en tête précisément les dates, mais où ceci a été confirmé. Et le ministre-président de la région wallonne, lorsqu'il est interrogé par des parlementaires au sein du Parlement wallon à ce propos-là, ses dernières déclarations qui remontent au début de l'année actuelle, de l'année 2026, il dit qu'il a encore une attitude qui est extrêmement restrictive et que donc il ne signe pas de licence d'exportation d'armes pour les forces israéliennes. Alors, il y a malgré tout des choses un peu particulière, un peu spécifique, un peu technique tout autour, mais la réponse générale à votre question, c'est ça.
Oui, ça veut dire en tout cas que le fait que c'est problématique de vendre des armes pour l'armée israélienne, c'est quelque chose qui a été reconnu puisqu'on en a discuté.
Tout à fait.
Tout à fait.
Oui, c'était discuté, oui.
Donc c'est problématique. Donc si aujourd'hui on le fait quand même, on ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant qu'il y avait un problème.
On ne peut absolument pas dire qu'on n'était pas au courant. Donc l'information est là, il y a eu les concertations, il y a une information médiatique qui existe. Il y a aussi donc au niveau européen, donc il y a un dispositif qui est mis en place et qui collecte les informations des différents États européens et qui a été mis en place notamment pour éviter des mécanismes qui seraient considérés comme de la compétition déloyale si quelqu'un octroie pour un État et quelqu'un d'autre refuse d'octroyer, ce genre de choses-là, ce qu'on appelle dans le jargon undercutting, pour éviter undercutting. Et donc il y a des informations à propos d'Israël qui circulent aussi donc à travers ce dispositif qui s'appelle le COARM européen et auquel participent administrations ou les bureaucraties belges, francophones et néerlandophones qui octroient les licences d'armes. Oui, tout à fait.
Oui, et je me pose aussi une question. On sait que Elbit est présent en Belgique. Il y a donc il y a des activistes qui ont été bloqués pendant une journée à leur usine. Et ça, l'histoire continue. Il y a eu un procès il n'y a pas longtemps qui ne va pas vraiment dans le bon sens. Mais quel est l'intérêt de ces entreprises israéliennes de s'implanter en Belgique?
Oui, alors c'est une question d'actualité qui est très intéressante parce que donc je vous ai donné la réponse générale, mais il y a plein de petites choses donc complémentaires, un peu techniques à dire, et ça en fait partie. Donc, il y a en région wallonne deux entreprises qui sont des filiales d'entreprises israéliennes d'armement. Une de ces entreprises s'appelle OIP Land System, et en fait, elle a notamment des ateliers, des installations en Flandre et en région wallonne. Donc c'est une filiale d'Elbit et c'est une filiale qui est notamment spécialisée dans les équipements électroniques, des systèmes de vision. Et elle a aussi, donc elle occupe un autre créneau en région wallonne, c'est qu'elle achète des véhicules blindés de seconde main et elle les revend en entier ou en pièces détachées pour des États qui conservent des vieux modèles. Et il y a quelques années de ça, donc elle a fourni des véhicules blindés à l'Ukraine. Enfin, elle les a fournis pas à titre gracieux, hein, c'était très très cher, mais donc elle les a fournis. Donc OIP Land System est une filiale. Il y a un second cas, une entreprise qui s'appelle BATS, qui est située en région liégeoise, qui est également spécialisée dans les radars des équipements électroniques, des radars terrestres, qui est une filiale, si mes souvenirs sont exacts, de Israeli Aircraft Industries, et qui vend des équipements en Europe et en dehors de l'Europe. Et ces deux entreprises disent, affirment, et ça semble corroboré par le contenu des rapports, donc ces entreprises ne fournissent pas l'armée israélienne. Mais donc c'est quand même des intérêts économiques israéliens. Ces filiales, il y en a d'autres dans d'autres États européens, en Grande-Bretagne notamment. Et il y a aussi eu des militants qui se sont mobilisés contre ces filiales en Grande-Bretagne. Et donc je vois que vous hochez la tête, donc vous êtes bien au fait de cette histoire-là également. Et ça fait partie donc d'une dynamique qui est une dynamique assez générale dans le commerce des armes. C'est-à-dire que c'est un commerce qui est mondialisé, avec des chaînes de valeur, des chaînes de production qui sont totalement dispersées à travers le monde. Et donc Israël, à travers ses entreprises, se greffe à ces mécanismes-là, donc avec des filiales, des productions de composants dans un pays qui sont exportées vers un autre pays, et ça finit dans différents endroits. Alors, les militants, en fait, il y a eu deux actions qui ont été menées, à ma connaissance, ces dernières années à l'encontre de OIP Land System. Il y en a une qui a été menée en août 2022. Il y avait des véhicules blindés de l'armée belge à Oudenaarde, donc en Flandre, sur un parking de OIP. Des militants pro-palestiniens ont tagué Shut Elbit Down et ont lancé un ou des cocktails Molotov sur les véhicules. Et ils ont été poursuivis par un procureur fédéral au motif d'activités de type terroriste. Je ne sais pas précisément où en est la procédure actuellement, mais c'était une première activité de type militante. Puis il y a une deuxième activité militante qui s'est déroulée donc en juin 2025, qui s'est déroulé en parallèle en Flandre et en région wallonne, d'une part chez OIP et chez, si je ne dis pas de bêtises, à Sienzko, qui est aussi un fabricant de composants dont certains sont utilisés par les forces armées israéliennes. Donc il y a eu deux actions qui ont été menées en parallèle, et ces actions ont visé à bloquer l'entrée de OIP Land System. Et il y a eu une plainte qui a été déposée par OIP Land System. La plainte a été... Le verdict a été rendu il n'y a pas tellement longtemps. Je n'ai pas en tête la date précise. Je crois que c'était il y a approximativement un mois de ça. Et malheureusement, donc, le juge a donné raison à l'entreprise. Et sept militants ont été accusés d'avoir entravé l'activité, d'avoir nui à l'activité économique et vont devoir payer des dommages. Le juge a décidé cependant de ne pas faire confiance aux montants qui ont été exigés par OIP Land System, mais a recommandé qu'un expert extérieur fixe les montants. Mais donc ça représente potentiellement des sommes de dizaines de milliers d'euros pour des militants. Donc ce sont des sommes qui sont significatives. Oui,
ouais, tout à fait. Ben là, on a discuté sur la direction que ça va avec l'assouplissement des conditions pour des licences d'exportation d'armes. Mais le cadre légal qui existe aujourd'hui est relativement faible déjà.
Alors là, je suis pas 100% d'accord. En fait, ce que je dirais, c'est que moi, je pense que le cadre, il est pas mal. En fait, il y a moyen de bien travailler avec... c'est pas un cadre idéologique, c'est pas un cadre qui est pacifiste ou antimilitariste, mais le cadre en question, il permet de faire des choses sérieuses tout de même, et le problème, c'est plutôt au niveau de l'application, en fait, que du cadre lui-même, qui a des difficultés. En fait, je vais aller assez vite dans l'explication, mais donc le cadre, il repose sur trois ou quatre composants. Un premier, c'est que d'abord, il y a du droit international un peu classique, les conventions de Genève qui doivent être respectées notamment. Ça ne concerne pas spécifiquement les exportations d'armes, mais ça s'applique aussi. Et donc, ces conventions disent que si on ne peut pas contribuer dès quelqu'un à massacrer des civils librement ou commettre des activités telles que la torture et ce genre de choses-là. Donc ça, c'est un premier étage, si vous voulez. Ensuite, il y a un traité international qui s'appelle le traité sur le commerce des armes, qui est entré en vigueur en 2014. La Belgique est signataire, donc les régions doivent respecter cet accord-là. Il comporte 5 critères, des critères d'assez bon sens. En fait, on n'est pas censé exporter des armes s'il y a un risque qu'elles soient utilisées pour commettre un génocide, pour massacrer des civils ou pour faire des choses de ce type-là, des activités extrêmement cruelles. Puis ensuite, il y a une position commune de l'Union européenne, qui est une espèce de loi européenne. Le statut est parfois discuté par les juristes, mais pour dire les choses assez rapidement, on va dire que c'est une loi européenne qui comprend 8 critères, qui sont pas mal du tout également, qui interdisent par exemple d'exporter des armes à un État s'il risque de détourner ses armes, si l'État ne respecte pas le droit international et qui risque de se servir de ses armes, donc dans le cadre d'une violation du droit international ou d'une violation du droit humanitaire, des droits de l'homme, bref, ce genre de choses-là. Et donc c'est pas mal du tout. Et les critères, les 8 critères en question, sont intégrés dans le décret régional, c'est le décret qui date de 2012, le décret de la région Wallonne. Et moi, je pense qu'en fait, ces critères sont très, très bons. En fait, il y a moyen vraiment de travailler sérieusement avec. Mais le problème, encore une fois, c'est l'application de la législation, c'est-à-dire que les gens qui interprètent ces critères et qui instruisent les dossiers quand ils reçoivent des demandes de la part des fabricants, donc ils instruisent ça de manière secrète, à huis clos. Et on n'a pas beaucoup d'informations sur la manière dont ça se passe. Même quand il y a des plaintes par après, des requêtes qui sont déposées au Conseil d'État, même le Conseil d'État ne donne pas accès à tous les documents. Donc je trouve qu'il y a une forme d'opacité, de manque de transparence. Et quand le Conseil d'État donc, a rendu des décisions de suspension sur certaines demandes, ce que le Conseil d'État, donc il me permet quand même d'entrevoir une partie de ce qu'il y a dans ces dossiers, il dit que c'est, quand il bloque, il dit que ces dossiers ne sont pas analysés rigoureusement, en fait, qu'il y a des arguments qui ne sont pas pris en considération. Et donc ça interpelle. Ce qui interpelle aussi, c'est tout simplement quand vous prenez le temps, c'est laborieux, hein, mais donc quand vous prenez le temps d'aller sur les réseaux sociaux et d'aller sur les moteurs de recherche internet et que vous faites des recherches systématiques pour essayer de trouver où finissent les armes produites par les entreprises de la région Wallonne, vous constatez qu'il y en a qui finissent dans les mains de la police militaire de l'État de Sao Paulo, il y en a qui se terminent en Inde, c'est un État quand même qui est problématique également. Et là, donc, ça interroge aussi sur qui et comment sont appliqués les critères, parce que vous vous dites que quand on a les informations de la presse et qu'on voit où terminent ces armes et ce qu'on fait avec, dans certains cas, vous dites que c'est pas possible, en fait, on n'a pas pu appliquer correctement les critères. Donc, en résumé, le cadre légal à l'heure actuelle, moi, je pense qu'il est bon. Le problème est dans l'application.
Ok. Merci beaucoup, Christophe. L'émission est presque terminée, donc c'est une émission courte.
Ok, pas de souci.
C'était avec plaisir. Donc, on va faire comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour nous éclairer sur tout ça.
Avec plaisir.
Et je pense que demain ou après-demain, on va parler avec des activistes de Stop Elbit, notamment. Voilà.
Super.
Merci pour votre écoute et à demain. Au revoir.
Au revoir.
Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Belux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30 et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique 105.4 FM à Bruxelles.
une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.